Ça va être un beau sujet, Audrey. Sujet qu'on va aborder dans les prochaines secondes. Bien sûr qu'on va parler de santé mentale, mais on va parler de santé mentale de nos agriculteurs. Tu as parlé du balado Rondelet, puis il y a des auditeurs qui nous ont écrit en disant « C'est tellement intéressant, ça, ce balado-là, Rondelet comme docu. » Pièce de théâtre, je le recommande à tout le monde. Ils vont probablement faire une tournée au Québec, c'est ce qu'on nous mentionne.
Oui, puis c'est vraiment capoté parce que t'en apprends toi-même, même si c'est pas ton domaine, sur ton histoire aussi, sur la place que ça prend. Moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement ignorante, là. Il y a vraiment des affaires que j'ai apprises ce matin en l'écoutant. Puis c'est vraiment pas long, là. C'est en trois actes. Il y a comme quatre épisodes, là. T'en as un de 30, un de 40, deux de 25, là. Ouais, ça passe vraiment vite.
Tu m'as dit que c'était pas très... Tu sais, c'était pas dark, là. On faisait de l'humour.
Ah non, il y a de l'humour. Ah non, c'est vraiment comique. C'est super bien fait. Fait que t'arrives à te... Puis tu sais, au début, oui, on parle de santé mentale de façon plus lourde, mais après, on explique le pourquoi du pourquoi. On va plus loin aussi. Fait que non, honnêtement, c'est léger, c'est le fun. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Puis ça nous a mené au sujet d'aujourd'hui parce que la santé mentale des agriculteurs, je vais dire même au Canada, c'est un sujet qui est connu, que moi, je ne connaissais pas. Tu sais, je te sors une couple de stats. Là. Tantôt, je t'ai dit, un emploi sur huit au Canada est dans le secteur agricole agroalimentaire. Ils ont fait un sondage auprès de plus de 1100 agriculteurs. 35 % répondent aux critères de dépression, 58 aux critères d'anxiété, 45 étaient super stressés. Puis il y a 40 % qui n'étaient pas à l'aise de demander l'aide d'un professionnel, ce qui est un foutu problème. Entre toi et moi. Là. Mais pour jaser de tout ça, il n'y a personne de mieux que quelqu'un qui le vit au quotidien, ce stress-là, puis qui gère une ferme. La ferme Simard, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. On a David avec nous qui est là ce matin.
Salut David, pas de surprise pour toi, tout ce qu'on a appris dans ce balado-là?
Non, aucunement. Là, c'est très connu dans le milieu, puis c'est de plus en plus d'actualité.
T'expliques ça comment qu'on en soit rendu là aujourd'hui en 2024, d'être obligé de dire au gouvernement « faites attention à nos agriculteurs, essayez d'avoir plus de ressources psychologiques pour nos agriculteurs ». Comment ça se passait dans le temps? Ils se soignaient autrement? Ils prenaient plus d'alcool? Je sais pas.
Ben, tu sais, la vie va vite hein, en 2024, c'est dans tous les domaines. Là, on vit rapidement, on a toujours le téléphone en main, on accomplit énormément de choses, puis on a un rendement à donner. J'avais déjà posé la question à mon père de comment il faisait dans le temps. Tu sais, tout se faisait à la main. Comment est-ce qu'il a... Mais il dit, tu sais, dans le temps, là, il gagnait ce qu'il gagnait, il nourrissait leur famille. Puis le dimanche, il ne travaillait pas, il allait à l'église. Puis dans la semaine, ils faisaient leur ouvrage. Puis s'ils ne finissaient pas aujourd'hui, ben ils finissaient demain. Puis, tu sais, c'était moins. Il y avait moins les finances d'impliquer, il y avait moins la pression de réussir. Il y avait peut-être pas autant de moyens que nous, mais c'était une agriculture de subsistance, tu sais.
Tu as écouté le balado Rondelet, puis tout ça est parti de là. Qu'est-ce qui t'a bouleversé dans l'écoute de ce balado-là? Parce que ça m'est venu aux oreilles que ça t'a quand même jeté à terre, là.
Ouais, moi, j'ai cassé direct en partant. C'est ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça commence par une personne qui témoigne un peu des événements qui ont mené au suicide de son conjoint. Puis c'est des gens de ma région, c'est pas des gens proches de moi, mais tu sais, veux pas, c'est une petite communauté, on se connaît tous. Ce qui m'a bouleversé, c'est pas la séquence des événements, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est moi, ça fait une dizaine d'années, je me rappelle comment je me sentais quand je suis allé à ses funérailles, puis j'avais 20 ans, j'étais plein d'énergie, je commençais dans le métier, puis j'avais beaucoup de questionnement, d'interrogation, d'incompréhension sur ce qui pouvait amener quelqu'un à poser un geste comme ça, tu sais. Puis ce qui m'a tapé le plus dans la face en écoutant le témoignage, c'est que, tu sais, une dizaine d'années après, j'ai 31 ans, j'étais un père de famille, puis je le comprends, tu sais. Je le sais, qu'est-ce qui peut mener à ça, je le comprends. Tu sais, je connais la trail. Tu sais, je peux pas dire que j'ai eu d'enjeux de santé mentale, j'ai pas eu d'épisodes dépressifs, j'ai pas eu de problèmes, j'ai pas eu besoin de consulter, mais ça m'a fait rendre compte que je suis vraiment pas à l'abri de ça parce que la trail, je la connais. T'sais.
C'est quoi la trail?
Ben, c'est des années. C'est un paquet de petites choses, t'sais, les facteurs qui peuvent détériorer une santé mentale dans la société, c'est à peu près les mêmes pour tous. T'sais. C'est juste, il y en a plusieurs, il y en a peut-être 8, 10. C'est juste qu'en agriculture, je pense qu'on est exposé à plusieurs de ces facteurs-là de manière importante. Puis l'accumulation de tous ces facteurs-là ensemble, ça fait qu'au bout de 10, 15, 20 ans, tu n'es plus toi.
Tu es peut-être à bout un peu.
Tu sais, moi, j'ai Personnellement, si tu me demandes ma santé mentale, es-tu mieux que v'là 5 ans? Je vais te dire non. Là. Ça s'est détérioré. C'est mineur. Mais puis heureusement, on vit dans une époque où on est très sensibilisé à ça, où c'est pas tabou d'en parler, où c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plus un signe de force que de parler de ces choses-là. Fait qu'on est chanceux, tu sais, on peut s'en apercevoir avant qu'il soit trop tard, mais...
Mais c'est ça, il y a une différence de génération. Là, nous autres, on est un peu plus portés à parler, puis on sait qu'il y a des ressources d'aide qui sont là, qui sont disponibles sans jugement. Dans le temps de nos parents, de nos arrière-grands-parents, c'était un petit peu plus difficile. T'sais. Les ressources n'étaient pas là, puis ils se comparaient beaucoup de famille en famille.
T'étais pourvoyeur aussi, comme
ils voulaient
montrer
qu'ils étaient forts.
Puis
il y avait beaucoup d'alcoolisme. Là. On se demandait pourquoi ça fêtait autant pendant le temps des fêtes. C'était juste pour essayer de passer au travers de tout ce qu'ils avaient vécu dans les derniers mois, j'imagine, là, à se défoncer pour essayer de se soigner d'une quelconque façon puis relâcher les tensions. Là.
C'est sûr et certain qu'il y a encore des problèmes de drogue et d'alcoolisme dans le milieu, là, c'est évident. Là.
Ils se soignent comme ça?
Ben, ils se soignent comme ça, ou des fois, il y en a qui se tournent vers ça pour performer plus. Je veux dire, des fois, des journées de 10-12 heures, c'est comme... Moi, je me considère pas comme un agriculteur qui travaille de manière extrême, mais disons que je suis peut-être dans la moyenne ou un petit peu en bas de la moyenne des agriculteurs, mais je suis... pas mal au-dessus de la moyenne, mettons, dans la société en tant que telle. Des fois, c'est fou qu'est-ce qu'on fait. Là. Il y en a que, bon, c'est pas long de se gober une ou deux pilules puis faire des 24 heures. Puis, c'est une solution facile.
Tu sais, David, on se connaît personnellement aussi, là, mais juste pour les gens, mettons, qui savent pas. Parce qu'en écoutant le podcast ce matin, il y a une chose que j'ai réalisée, c'est que bien des affaires... J'ai réalisé pas l'ampleur de la job, mettons. Tu sais, dans le sens que je sens qu'on romance des fois le fait d'être agriculteur ou d'avoir une ferme, d'être à la maison, d'avoir ses animaux, de produire. Ça tombe bien l'air beau, t'es avec ta petite famille sur ta terre. Tu sais, il me semble qu'on embellit beaucoup la job. Tu peux-tu juste peut-être nous rappeler exactement l'ampleur de ce que tu fais comme agriculteur?
Ben, tu sais, c'est il y a plusieurs points, puis oui, c'est une belle job, puis ces points-là sont là, c'est juste qu'à un moment donné, actuellement, en 2024, la pression financière sur les fermes est énorme. Tu sais, puis particulièrement les agriculteurs de la relève, ceux qui achètent des fermes, en ce moment, les fermes se transigent à peu près à 22 à 25 fois les profits. Donc, si tu t'embarques dans une ferme, disons, qui génère un 100 000 $ de profit par année, ça va te coûter 2,5 millions. Mm. Les paiements de ça, il ne faut pas que tu aies une mauvaise année. Il ne faut pas que tu skippes. Il faut que tu goals. Puis, ben, comme on le sait, il y a des changements climatiques. On les vit beaucoup. L'an passé, on les a vécus de manière extrême au Québec, partout, particulièrement dans mon domaine, dans le maraîcher. Ça amène une pression énorme. Moi, l'an passé, j'ai perdu au-dessus de 100 000 $ là, tu sais, je veux dire.
Ça paraît, là.
J'ai perdu le profit des trois années avant, là. Fait que je me retrouve au bout de 4 ans, break-even, pour que je continue à faire mes paiements, tu sais. J'ai pris la relève de mon père, j'ai acheté, tu sais, j'ai des dettes énormes, fait que... Puis là, ça, c'est moi, c'est mon histoire, mais je veux dire, on est tous dans le même bateau, là. Tous ceux qui... Des agriculteurs libres de dettes en bas de 40 ans, je veux dire, j'en connais pas, là. Mm.
Ça fait-tu partie de la pression, ça, le côté familial, intergénérationnel? Il y a comme un bagage émotif, j'ai le sentiment avec ça. Fait que tu veux pas, comme jeune agriculteur, dire « moi, je lâche tout ça » quand ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père a mis sa vie là-dedans? Là.
C'est un point majeur. Je te dirais que si tu parles à des hommes d'affaires en dehors de ce domaine-là, ils vont te dire « business is business, si tu as ton prix, tu vends, puis tu sais, il n'y a pas trop d'émotion là-dedans, puis... » Les fermes, il y a tout le côté émotif, sentimental, parce que c'est aussi une affaire familiale. T'sais, on a passé d'une agriculture de subsistance où ça se passait de génération en génération, puis toi, tu tombes en 2024 où c'est plus ça, il faut que tu génères, c'est rendu une business, il faut que tu génères du profit, puis il faut que tu vives, puis il faut que tu fasses vivre tes employés, puis ça. Tu arrives au bout de 7-8 générations, tu n'as clairement pas envie d'être celui-là qui plante la patente, là, t'sais. Puis c'est pas tout le monde qui l'a, cette pression-là, puis qui se la met, mais je pense que...
Toi, ça joue-tu dans balance?
Ça a joué. Ça a joué dans balance du fait que tu sais, je suis fier d'avoir repris ça de mes parents. Mes parents ont travaillé extrêmement fort pour monter ça, puis tenir ça aussi, puis avoir une entreprise qui est profitable, qui est bien, puis qui est... pour que je puisse en vivre, tu sais. C'est pas un point majeur pour moi, c'est pas énormément de pression pour moi, mais...
Mais tu comprends plus ce qu'ils ont vécu.
Je comprends absolument ce qu'ils peuvent vivre. Puis tu me dirais demain matin, « Ouais, ça, si ça va pas bien, tu mets une pancarte à vendre là-dessus? » Non. Je vais faire tout ce que je peux pour garder le patrimoine familial debout, tu sais.
Tu pourrais-tu vendre demain matin puis faire de l'argent avec tout ça?
Ben oui.
Reprendre tous tes profits? Ou tout ce que de l'argent que tu as perdu?
Tu sais, souvent, on se fait dire, « Ah, mais tu sais, vous faites pas beaucoup d'argent, les agriculteurs, mais vous avez une valeur énorme. » Oui, on a une valeur énorme. Puis c'est une partie du problème aussi, tu sais, le prix des terres. Les maisons ont monté plus vite que l'inflation dans les 20 dernières années. Puis les terres ont monté plus vite que les maisons. Là.
Exact.
Donc, ça a explosé les valeurs. Puis quand il vient le temps de racheter ou de reprendre, c'est là qu'on s'endette fortement. C'est sûr que quand tu vends, t'as un beau chèque, si t'es capable de vendre le prix que ça vaut, c'est plusieurs millions. Mais tu veux gagner ta vie avec ça, puis tu veux pas vendre le patrimoine familial. Tu veux en vivre, tu veux gagner ta vie, tu veux que tes enfants puissent gagner leur vie. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une annonce de Visa où les gens paient toutes leurs transactions avec des carottes. Là, ça a passé récemment. T'sais. Puis je me disais, t'sais, si c'était comme ça, la vie, ce serait facile. T'sais, payer son épicerie avec une pelletée de terre ou avec une branche d'arbre, on serait tous millionnaires.
T'sais.
Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis ces gros actifs-là qui valent énormément d'argent, ben quand t'as de la misère à générer des liquidités avec, t'es au point mort quand même. T'sais.
T'as-tu l'impression que tu vas être rentable à un moment donné? T'sais, t'as-tu le sentiment que ça va venir? Est-ce que tu calcules ça peut être à peu près dans combien d'années?
Ben tu l'as toujours, l'espoir, tu sais, tu travailles dans ce but-là d'être rentable, de pouvoir au moins, du moins, payer, faire tes paiements, gagner ta vie, c'est ça l'objectif. Il y a personne, tout le monde sait qu'ils ne se mettront pas riches avec ça, c'est évident. Mais par contre, en ce moment, les marges sont super minces, tu sais, puis on parle de santé mentale, ben l'aspect financier, si je te dirais, c'est probablement top of the list, tu sais. Puis après ça, ben tu suis, ben on a une immense pression sociale aussi, ça c'est un gros point majeur qu'on n'a peut-être pas effleuré au niveau de la santé mentale, mais la pression sociale qu'on a en tant qu'agriculteur de faire nos produits selon les valeurs des gens, parce que nos produits, veut pas, ils touchent 100% de la population. Fait qu'il faut que tu répondes à 100% des valeurs de la population québécoise. Fait qu'il faut que tu sois économique, faut que tu sois environnementalement raisonnable, acceptable. Au niveau du bien-être animal, faut que tu sois ça à coche. Tu sais, il y a quelques années, il y a des gens, des activistes véganes qui rentraient dans une grange pour détacher les vaches, puis que... Tu sais, dans des exploitations agricoles, il y a des agriculteurs qui ont vécu avec cette pression-là, tu sais. Des gens qui rentrent dans un poulailler pour vouloir libérer les poulets puis les poules. Tu sais, moi, en tant que maraîcher, combien de fois j'ai été dans un marché public où des gens sont venus me faire un grand monologue sur l'utilisation des pesticides, puis que je devrais pas faire ça, puis que je devrais pas, que je devrais être bio, que je devrais faire ci, en sachant pas de quoi ils parlent. C'est une pression supplémentaire qu'on a sur nos épaules que des fois, tu te dis, bon, c'est mineur, c'est un commentaire, tu ne l'écoutes pas. Mais quand ça fait 10 ans que tu te fais passer des commentaires ou que tu vois des gens des médias bâcher sur ce qu'on fait ou, tu sais, cette pression-là...
On comprend plus pourquoi dans le temps, il est tiré au gros sel.
Ben, tu sais...
Non, mais c'est vrai, c'est irritant. Puis t'as un méchant point. On ne sait pas de quoi on parle. On est zéro éduqué par rapport à ça.
Non, puis nos moyens de communication sont extrêmement rapides puis sont instantanés. Tu sais, la personne qui trouve, je sais pas moi, un cocombe poké dans sa commande, elle peut m'écrire tout de suite, m'envoyer ça pendant que je suis chez nous avec ma fille en train de faire mes affaires à la maison. Puis
son cocombe est poké.
Son cocombe est poké, puis c'est émotif, parce qu'elle l'a payé cher, selon elle. C'est son argent, ça la fait chier. Mais au lieu... Elle va me dire des affaires qu'elle ne me dirait pas en pleine face, qu'elle prendrait même pas le temps de me téléphoner pour me dire, mais elle va m'envoyer un message de marde pour un cocombe à une pièce. Tu sais... On vit avec ça, puis il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivent avec ça, puis ben ça rentre dans les critères là, ouais. de santé mentale.
La main-d'œuvre, David, il y a de moins en moins de Québécois qui veulent travailler aussi fort que toi, tu travailles, tu es obligé d'aller la chercher à l'extérieur. Le gouvernement, as-tu facilité les choses pour vous rendre ça le moins compliqué possible, ou c'est encore, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans?
Ben heureusement, on a les agences.
Ouais.
T'sais, on a des agences, on paie des gens pour s'occuper de toute la charge administrative que c'est que de faire venir des travailleurs, tu sais. Mais sinon, on serait pas capable. Il y en a quelques-uns qui le font eux-mêmes, mais tu sais,
c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Puis, tu sais, il y en a plein de Québécois qui sont super travaillants. C'est juste qu'on n'est pas capable de les payer. Tu sais, on aurait des Québécois ces fermes si on était capable de donner 30-40 piastres de l'heure, tu sais. Non, c'est impensable de faire ça puis de continuer à avoir des produits à prix raisonnable ces tablettes, tu sais.
Mais qui fait l'argent? C'est peut-être une question full niaiseuse, là. On dirait que j'essaie de comprendre, mais tu sais, quand t'achètes tes fraises, je vais prendre les fraises du Québec, tiens. Tu sais, des fois, je veux dire, on se dit qu'elles sont chères ou que... Mais si c'est pas vous qui faites le profit directement, comment ça marche?
Tu sais, on pourrait partir là, là-dessus. Ah,
c'était fini, là.
La consommation a changé énormément dans les 50 dernières années au Québec, au point où ce qu'il y a one stop pour la bouffe, c'est les supermarchés. Mm. Puis, veux pas, les gens sont drainés là-bas, fait qu'eux, ils ont un peu le monopole. Tu sais, il y a 5 grandes chaînes au Canada, ils contrôlent 35 millions de population. Je veux dire, il y a à peu près 90% de la nourriture qui vient de ces chaînes-là. Fait que c'est, les intermédiaires en ramassent beaucoup. Puis tu sais, t'as toujours... T'as presque aucun produit en supermarché qui arrive directement de chez le producteur. Presque aucun. C'est le je sais pas le pourcentage, mais c'est probablement en bas de 5%.
Il y a toujours des intermédiaires.
Il y a toujours des intermédiaires et il y a toujours, souvent, pas un seul intermédiaire, tu sais. Mmh. Fait que là, tu vas avoir un distributeur, tu vas avoir un paquet d'affaires, tout le monde pige dans le sac. Ouais. Puis, ben, il y a une couple d'années, il y a eu une commission fédérale pour amener les patrons des grandes chaînes pour expliquer comment ça se fait que les profits explosaient après la pandémie. T'sais. Puis, on dit, ben, les profits explosent, c'est pas parce qu'on fait trop d'argent, c'est parce qu'on est très. On est très optimal dans nos opérations, mais tu sais, c'est pas vrai que tu imprimes 10-12 milliards par année en étant juste optimal. Il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui perd quelque part. Là, la marge de profit agricole a extrêmement diminué dans les 3-4 dernières années pendant que le panier d'épicerie a explosé. Fait que quand les gens sont pas contents ou que tu sais, ils payent plus cher leur épicerie, ben les premiers gens vers qui ils se retournent.
C'est vous autres, mais c'est pas
les premiers pointés du doigt, c'est nous, là, tu sais. Puis, je te dirais, 95% des produits agricoles, c'est pas nous qui décidons des prix, tu sais. Ça va être les intermédiaires ou ça va être des fois l'autorité des marchés agricoles, tu sais. Le prix du lait n'est pas déterminé par les producteurs de lait, tu sais. Il est déterminé par un organisme indépendant, tu sais. Le prix du porc, il est déterminé par le marché mondial, tu sais. Les fruits et légumes, ben on est influencé beaucoup par les États-Unis. Puis les grandes chaînes souvent vont déterminer les prix qu'ils vont donner aux producteurs pour les fruits et légumes. T'sais, les fraises, c'est négocié avant la saison.
Ah oh ouais.
Pis c'est négocié très, très, très serré. Là.
C'est
avant la saison.
Oui, ouais, avant la saison, les grandes chaînes s'assoient là, avec les producteurs, l'association des producteurs, puis ils négocient les prix pour la saison.
C'est pour ça que des fois, ils sont lettres, mais ça coûte cher pareil.
Ouais, mais il y a des mauvaises années pour les fraises.
Ben, oui. Des fois, il y a des mauvaises années, mais on ne le sait pas d'avance. Là. L'an passé, ça a été une année exécrable. Les prix étaient négociés d'avance. Fait que ce qui est arrivé, c'est que bon, le marché est tellement... Il y a tellement rien sur le marché que, bon, les chaînes n'ont pas le choix de payer à un moment donné, là, mais, tu sais, ils n'étaient pas capables d'honorer leurs spéciaux. Fait que là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah, ben en raison de la météo, on n'est pas capable d'honorer notre spécial. Tu sais, ils ont le beau jeu, là. Le client est quand même attiré dans la succursale par le prix alléchant. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de fraises au Québec. Fait que là, il voit ce prix-là, il capote. Il arrive en magasin, il voit une pancarte, on ne peut pas honorer notre spécial à cause que les producteurs ont manqué leur coût. Tu sais, c'est un peu ça que ça veut dire.
Mais on devrait tellement avantager les produits locaux. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tu vas... Puis on donne un exemple qui n'existe pas. Tu vas chez Walmart, tu as un panier de belles fraises du Québec, puis tu as un panier qui vient d'ailleurs, qui a franchi des centaines et des milliers peut-être des millions de kilomètres avant d'arriver là. Puis tu te dis, mais comment ça que la fraise du Québec est plus chère? Puis j'en veux pas, moi, la personne qui dit, moi, Yann, j'ai pas d'argent, là, j'ai pas le choix de prendre le panier moins cher, mais... Faut être consciencieux, puis on devrait tellement mettre l'accent sur nos produits chez nous, puis qu'en bout de ligne, c'est pas tout le monde, tu sais. Au lieu d'avoir 18 intermédiaires, on pourrait juste en avoir un ou pas pantoute.
Mais c'est
la
qualité supplémentaire.
Parce qu'au même prix, je pense que les gens ont le bon réflexe, là, c'est d'acheter Québec, là, la plupart du temps.
Ben oui, puis tu sais, c'est une vertu que... Tu sais, 90% des gens sont pour l'achat local, puis sont vraiment derrière nous là-dedans, puis tu sais, c'est correct, mais quand vient le temps... De parler, c'est 90%. Quand vient le temps de payer, ça baisse à 60, 70. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je suis allé dans un restaurant de Québec, une super bonne table à Québec, je ne nommerai pas. C'est le temps la fin de la saison des fraises, c'est encore disponible. On a un automne qui est magnifique, fin septembre. Tu sais, je commande un gâteau au fromage, il y a des fraises américaines dessus.
Tu es capable de les reconnaître?
Ben oui. Je veux dire, t'as pas une fraise au Québec aussi exécrable que ces fraises-là, là, tu sais, je veux dire. Fait que j'ai ça, tu sais. Moi, je viens de finir ma saison, je suis comme, hey, il y a encore des fraises disponibles, on a encore plein de produits disponibles.
Tu poses-tu la question dans ce temps-là, savoir pourquoi ils vont pas vers des produits du Québec?
Tu sais, les produits américains sont disponibles et sont moins chers chez les distributeurs, tu sais. L'an passé, les laitues étaient super rares parce qu'on a eu une année que c'est crame. T'sais, j'appelle un distributeur, je dis « T'es-tu capable de me dépanner avec des laitues du Québec? J'en ai vendu, puis j'ai perdu les miennes. » Ben, il me dit « La laitue du Québec, en ce moment, elle est pas trouvable, ben, elle est super rare. Fait que j'ai de la belle laitue américaine pas trop chère. » Mais c'est pas dans mes valeurs, là. Fait que j'ai cancellé, puis j'ai cancellé mes commandes. J'ai fait comme « Ben, je suis pas pour vendre des laitues américaines. »
Ça marche pas.
C'est carrément contre mes valeurs. T'sais, Mais quand c'est un restaurateur qui appelle et qui a ça sur son menu, il n'y a pas le choix. T'sais. C'est comme, bon, lui, il en a en stock des laitues américaines. Je vais les acheter, puis that's it, là, tu sais. Fait que c'est l'argent qui mène le monde.
Oui, puis c'est, on pourrait bien les critiquer, mais probablement qu'on aurait un restaurateur avec nous, puis je veux dire, on pourrait comprendre que le portefeuille, c'est difficile aussi. Ouais. Là,
absolument, mais ce même restaurateur-là va te dire, ah, moi, les produits locaux, c'est 110%. Mais tu sais, tu comprends, ouais, tu arrives, tu viens de travailler tout ton cœur dans quelque chose, tu viens de... Puis, tu sais, tu prends ton argent, puis tu sais, restaurant, pas donné. Puis...
Donc, faudrait diminuer les intermédiaires?
Ben, tu sais, je pense que... Puis, tu sais, mettons, là, on s'était garé un peu de la santé mentale, puis tout ça, là, mais en 2020 et 2021, durant la pandémie, le mot d'ordre, c'était l'achat local, l'autonomie alimentaire, puis les produits du Québec. Ouais. On s'est reviré vers notre économie locale parce qu'on avait tellement peur que ça crash. Qu'on s'est concentré sur le Québec. Maintenant que c'est revenu un peu à la normale, on a délaissé ça. Fait que là, c'est. Puis je comprends ça, là. Les taux d'intérêt sont hauts, le monde arrive serré, on veut économiser au max. Mais je pense qu'on serait plus fort en tant que société si on se retournait vers notre économie plus locale, quitte à couper du Amazon, puis du Netflix, puis à couper à de l'argent qui s'en va en dehors de la province. Pour consolider, tu sais, les restaurateurs locaux, de la construction locale, tu sais, je veux dire, notre économie elle serait plus forte si on se retournait un peu sur nous. Puis nous, en tant qu'agriculteurs, ben c'est le nerf de la guerre. Là,
dans 10 ans, vas-tu rester des David Simon à la grandeur du Québec?
Je vais être encore là, mais dans 50 ans, c'est une autre chose, tu sais. Actuellement, la mondialisation fait qu'on est capable de s'approvisionner partout. T'sais, la bouffe, c'est acquis au Québec. On manque jamais de bouffe. Là. Je veux dire, oui, il y a des gens qui s'y arrivent plus serrés, ils ont besoin des banques alimentaires, puis c'est correct, mais pour le volume total de la population, on n'est jamais en pénurie de rien. Jamais. Mais le jour où que certains pays vont décider de fermer leurs frontières et de garder leur bouffe pour eux autres, s'ils ont certains problèmes, nous, on est la région la plus nordique dans l'Amérique du Nord. Là, si l'agriculture, si on continue comme ça, si elle s'essouffle ici, puis que dans 50 ans, il faut recommencer à produire puis recommencer à se nourrir, on va avoir un problème. Là,
Fait que comme consommateur, ben de consommer local, puis là, je veux juste te faire un petit... parce que David, bon, t'as la ferme, mais t'as cuisine Smart, les plats préparés et tout, puis t'as tes paniers de fruits et légumes. Puis quand j'étais dans le bout de Québec, je les commandais, ces paniers-là, tu sais. Puis souvent, je veux dire, il y a des gens qui se disent, ben non, mais c'est la facilité d'aller chercher mes fruits et légumes à l'épicerie. Le Maxi est à côté de chez nous, c'est bien plus facile que de me rendre chez mon producteur local qui est un peu plus loin, tu sais. Mais il y en a plus, je parle de toi, mais il y en a d'autres qui le font, là. Mais il y a plein de services comme ça où tu peux carrément t'abonner sur Internet. Tu commandes chaque semaine tes fruits et légumes. C'est livré chez vous. T'as pas à lever le petit doigt. C'est facile, facile, facile. Et il n'y en a pas d'intermédiaire. Tu commandes directement du maraîcher.
Pis, ça, c'est moi, mais il y en a qui le font dans les viandes puis tout ça. Des belles coupes de viande locale. Mettons, les viandes bio de Charlevoix, ils ont une panoplie de produits de grande qualité, tu sais. Des fois, on se dit, l'épicerie, les formats rapetissent, ça, tu sais, les paniers de fraises sont rendus à 750 ml à l'épicerie, là, mais des paniers de 3 litres, là, ça existe encore, là, tu sais, vous êtes encore capable d'en trouver ailleurs. Ben, c'est pareil dans le poulet, là, tu sais, tu vas payer ton poulet 40$, mais tu vas manger pendant une semaine dedans, tu sais, tu mangeras pas ton poulet toi-même tout seul avec tes frites chez vous, comme... Ouais. De grandes chaînes.
Je vais juste reposer ma question. Dans 10 ans, il va-tu y avoir encore des David Simard, donc des jeunes qui vont dire « Hey, je regarde, là, moi, c'est ce genre de métier qui m'intéresse, où je regarde la vie comme mon père et ma mère, puis c'est le genre de vie que j'aimerais avoir. » T'as-tu l'impression que ça va revenir, ça, on va revenir à la Terre? ou c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui vont dire « Regarde mon chum David Simard qui travaille 7 jours sur 7, là, qui en a plein son casse, qui n'est pas vraiment aidé comme il devrait être. C'est travailler 7 jours, c'est du stock, c'est engageant, je vais peut-être faire d'autres choses à la place. »
On est déjà là-dedans. Là. Tu sais, je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers autre chose, qui ont des rêves agricoles et qui n'ont pas les outils qu'il faut pour l'accomplir. Là. Ouais. C'est déjà commencé. Là. C'est déjà commencé d'avoir des gens qui veulent faire ça, puis que parce que le climat puis parce que l'environnement ne le permet pas, ils sont pas capables. Fait, c'est déjà commencé. Tu sais. Fait que c'est on a un gros choix de société à faire. On a un gros virage à faire. Puis on a besoin de garder les gens engagés. Puis on a besoin de pouvoir permettre à ceux qui veulent s'engager là-dedans de le faire. Ouais,
ton père t'a-tu dit, quand t'as dit « Père, j'aimerais ça reprendre la ferme », ton père t'a-tu dit « Es-tu sûr? »
Ah oui.
Ouais.
Oui. Parce que tu vois, Yann, moi, je m'en allais dans la prochaine génération. Oh. T'as une petite puce extraordinaire à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites aussi pour tes enfants, t'sais, ben, sachant ce que ça implique, là?
Tu sais, moi, je le fais au-delà de... Tu sais, une terre, là, c'était une terre dans le temps des dinosaures, c'était une terre dans le temps de la Nouvelle-France. Il y a du monde qui se nourrissait puis qui vivait là-dessus. Puis si les gens pensent comme moi, puis comme nous, les agriculteurs, dans 400 ans, ça va être encore une terre, tu sais. Tu fais une bâtisse dessus, c'est une bâtisse, ça a une durée de vie. Un humain, ça a une durée de vie. Une route, ça a une durée de vie. Même une société, ça a une durée de vie. Mais une terre, c'est intemporel, tu sais. Fait que c'est sûr et certain que j'aimerais ça transmettre ça à mes enfants. Puis mon but, c'est de rendre l'exploitation le plus solide possible, le plus attrayante possible pour qu'ils voient ça comme quelque chose, une opportunité de gagner leur vie, tu sais, et non une opportunité.
Puis ton père, justement, il hésitait pourquoi quand tu as dit je veux la reprendre, la ferme?
Mon père, on a une bonne différence d'âge, tu sais. Ouais. Puis. Juste avant que je reprenne, t'sais, il était tanné là, de faire les légumes, il était brûlé, puis il me disait, t'es sûr que tu veux faire ça? T'sais, moi, j'étais super bon à l'école, j'aurais pu faire n'importe quoi. Là. Puis il était comme, tu pourrais aller à l'école, avoir une bonne job, avoir une bonne paye, puis la terre, elle sera là. Puis au pire, moi, il dit, je vendrai la terre, c'est pas grave. Là, t'sais. Puis c'était hors de question, là. C'était hors de question. Puis, tu sais, dans cette période-là, nous, on avait eu... on n'a pas parlé, mais tu sais, des fois, t'as des tuiles qui te tombent sur la tête. Là, mm-hmm. Nous, on avait eu des micro-rafales. On a perdu comme 5-6 000 entailles dans notre herbivore. Tu sais, mon père avait considéré à ce moment-là mettre une pancarte à vendre puis dire « Fuck it, moi, là, c'est assez. Là, ça fait assez de tuiles que j'ai. » Puis c'était un peu dans cette période-là qu'on a eu le talk. Là, tu sais, puis moi, j'étais comme « Non, regarde, je suis embarqué puis on va se relever de ça. Puis regarde, aujourd'hui, on... » L'érablière, ça paraît plus. Là. Il y a des arbres qui repoussent. Les arbres, ça repousse, là, tu sais.
C'est une roue qui tourne. Puis lui, est-ce qu'ils ont-tu adopté un autre mode de vie maintenant? Il se lève plus tard?
il travaille encore, mon père. Encore? Ma mère aussi travaille avec nous sur la ferme.
Cette génération-là, ils vont toujours travailler.
Mais il est beaucoup plus relax, tu sais. Puis travailler sans pression, zéro pression financière. Tu sais, je veux dire, quand il décide de partir en moto avec son groupe de moto, là, il s'implique fortement dans un groupe de moto, tu sais, puis... Il part, puis s'il part 3 jours, il part 3 jours, puis c'est correct, là, tu sais, je suis autonome. Moi, j'ai pas besoin nécessairement d'eux dans les opérations, mais, tu sais, c'est sûr et certain que cette année, j'ai eu un an un peu plus tough sans main d'œuvre. Ben, tu sais, mon père, il a clutché, puis il a
aidé.
Ah, ouais, tu sais, il a vu ça, lui, puis il a fait comme, OK, ben, moi, j'étais encore capable, là, fait que go, j'embarque, là, tu sais.
Il y a ce beau côté, là.
Ah, c'est pas juste, tu sais, là, on a parlé de santé mentale, puis c'est des choses négatives, mais, tu sais, paquet d'affaires positives, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui est pris avec ces enjeux-là, mais c'est très, très, très important parce que moi, j'en ai vu plein autour de moi, puis ça fait 12 ans que je fais ça, j'en ai vu partir puis arrêter, j'en vois plein. C'est même pas... Ouais.
Audrey, le podcast que tu nous parlais tout à l'heure, Ron Delay, on peut l'écouter où?
Radio-Canada, audio, l'application, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, tu sais, au retour de la pause, on va jaser avec Martine Fraser, qui est travailleuse de rang. Fait qu'elle, elle a complètement l'autre côté de la médaille. Elle travaille avec les agriculteurs qui en arrachent, qui ont de la misère au niveau santé mentale, parce que c'est un énorme enjeu, là.
David Simard, maraîcher et propriétaire de la ferme Simard, un gros merci d'être passé.
Hey, merci à vous autres.
Hey, c'est les sapins à ce temps-ci de l'année.
C'est
hein,
les sapins?
Ah oui, là, on va, ça, c'est joyeux. Là.
C'est le fun.
La fin de semaine, je vends des sapins, puis c'est tellement plaisant. Les gens sont contents. C'est pas comme acheter du gaz, acheter un sapin.
C'est du bonheur.
T'es situé où pour vendre tes sapins? T'es-tu comme...
Mon commerce, Saint-Anne-de-Beaupré, 10611 Boulevard Saint-Anne. Passez me voir, venez me voir. J'ai plein de beaux sapins de Noël. Puis,
T'es-tu dans ta petite cabane avec un poêle à bois?
Non, ben tu sais, moi, j'étais dans mon commerce. Là, fait que, moi, c'était un plaisir. Là, je me colle du lunch là, le midi. Puis, je jase avec, ça me permet d'avoir un contact avec les clients.
Ben
puis,
ouais.
Les sapins de Noël, là, c'est pas une obligation. Là, c'est un luxe. Fait que les gens sont super heureux quand ils viennent s'acheter ça. Les enfants, ils trippent. Puis, c'est vraiment
très cool. David Simon, un gros merci d'être passé. 10h50, on s'arrête. Le garage à Dan. C'était un bon segment avec David, by the way. Ce segment-là va être disponible sur blvd.fm. Vous pouvez aussi l'écouter tantôt sur l'application BLVD.
Oui, je vais le mettre aussi sur la chaîne YouTube. On aime bien faire ça. Là, on a des playlists pour les shows. Là, fait que dans la playlist de l'Open Mic, vous allez vraiment retrouver le visuel de la conversation aussi.
5 degrés sur Québec, c'est de la pluie à certains endroits. Ce sera comme ça tout au long de la journée, des rafales à 60 km/h. Température stable à près de 7 degrés ce soir, cette nuit, de la pluie ou de la brune. Température stable à près de 6. Demain, vendredi, c'est de la pluie intermittente avec des rafales à 80 km/h. Demain, ça va être venteux. Ouais, tu mets ta calotte.
Oui.
Température stable à près de plus 5, samedi et dimanche chez les averses.
Juste ce matin, là, je sais pas toi, là, mais moi, j'avais les petits cheveux qui revolaient. Là.
T'avais un petit vent de travail.
Ben, ça vente en petit pépère ces routes aussi. Là,
t'en
fait, soyez prudents.
Tu t'en viens me mêler.
C'est vrai que je suis mêler.
Ben, c'est venteux, là.
Oui, c'est venteux, c'est pas le fun. Je me sentais pas en sécurité dans mon véhicule qui tassait de trois rangées.
Tu criais au monde de mettre des trucs pas attrapés à la grippe.
Mettez-vous au-dessus,
attrapez
pas à la grippe.
C'est un mythe, ça.
All right. Hey, notre prochain invité a fait un métier que je ne connaissais pas. Moi, j'avais déjà entendu le mot travailleur de rue ou travailleuse de rue. C'est des gens qui ont, exemple, des éducateurs spécialisés qui vont aider des gens qui sont en difficulté au centre-ville de Québec. Mais travailleuse de rang, je ne connaissais pas.
Je trouve ça vraiment fascinant. Martine Fraser, qui est avec nous, puis travailleuse de rang, elle est pour l'organisme Au cœur des familles agricoles qui existe depuis une vingtaine d'années. 2003, en fait, que ça a été créé. Puis le but de cet organisme-là, bien, c'est d'offrir du soutien psychosocial aux producteurs, productrices agricoles, à leur famille aussi. Fait qu'ils accompagnent finalement cette clientèle-là là-dedans dans les enjeux de santé mentale. Puis là, bien, tu sais, on a eu la version du producteur, du maraîcher, mais là, on voulait avoir la version professionnelle aussi. C'est quoi ce travailleur de rang? Parce que honnêtement, Yann, je connaissais pas le métier non plus.
Salut Martine, merci d'être avec nous ce matin.
Eh bien, merci à vous autres de l'invitation, c'est super apprécié.
Je pense que tu as entendu le segment tout à l'heure avec David, puis en même temps, pendant la pause, tu nous entendais discuter sur le Zoom. Les gens ont que de bons mots pour toi, Martine.
Bon, ben là, c'est fin.
Comment on en vient à devenir travailleuse de rang? Est-ce que toi, tu es issue du monde agricole aussi?
Oui, absolument. Dans le fond, moi, mon père a une ferme laitière, donc depuis toute ma vie, je baigne dans ce milieu-là. Puis moi, j'aime bien dire que je pense que ce métier-là a été tricoté pour moi, dans le sens où ça combine vraiment mes deux passions, c'est-à-dire le monde agricole, mais aussi toute la bébite humaine qui est derrière et qui tient ce fort-là. Fait que ouais, travailleur de rang, ça a vraiment apparu dans ma vie là, comme... comme une épiphanie, là, finalement.
Très jeune, tu côtoyais ces gens-là, puis tu voyais qu'il y avait certaines difficultés?
Absolument, absolument. Ouais. Ben, tu sais, quand on grandit dans ce milieu-là, on est à même de les vivre aussi. Fait que c'est pas juste de les constater. On les vit dans le quotidien, tu sais. Moi, je n'ai plus... Toutes les occasions où, par exemple, mon père ne pouvait pas rentrer pour un souper, il arrivait en retard à Noël parce qu'il y avait un bel âge, parce qu'il y avait une buvette d'eau qui a pété, puis parce que l'été, ben il ne peut pas venir à la piscine avec nous parce que c'est les foins. Il y a toujours... Ça a des conséquences aussi dans la vie de famille de ces gens-là. Fait que, ouais, de les vivre, ça permet de les comprendre, puis ça permet de mieux aussi, je pense, accompagner maintenant, dans ma vie d'adulte, accompagner les producteurs dans le cadre de mon travail.
Mais assurément. Puis pour être travailleur, travailleuse de rang, c'est quoi les compétences de... Parce que j'imagine que c'est pas un programme au cégep, cette affaire-là. Là. T'es-tu travailleuse sociale? T'es-tu...
Pour répondre, là, l'ensemble de notre équipe, là, on est tous des diplômés universitaires en relations d'aide. Donc, dans notre équipe, il y a et des travailleurs sociaux et des gens comme moi qui ont un bac par cumul. Dans le fond, moi, j'ai fait plusieurs certificats qui me donnent un cursus en intervention, mais on est de tous les horizons. Là. Okay, ouais. Mais on a tous et toutes un bagage agricole quelconque. T'sais. Que ce soit moi qui ai grandi sur une ferme, j'ai une collègue qui a son propre verger, j'en ai une autre qui vient du milieu forestier
Ah,
assez
c'est le
agricole. T'sais. Fait
fun.
qu'on a tous et toutes, on est toutes rattachées à l'agriculture.
Puis comment ça fonctionne? C'est-tu à travers le Québec? Est-ce que vous vous promenez?
Oui, ben en fait, là, on est dans 9 régions administratives. Puis il faut dire, en fait, que même si ce n'est pas au cœur des familles agricoles qui est, par exemple, en Abitibi ou en Outaouais-Laurentide, il y a quand même des travailleurs de rang aussi. Donc, si vous êtes à